Tour d'horizon maintenant du journal Femmes Suisses. Je vous le disais tout à l'heure, le journal Femmes Suisses désormais est mené par Brigitte Montilleri qui reprend la barre de la rédaction en chef. Alors, elle a bien sûr donné son grain de sel quant à ce jour à marquer d'une pierre blanche le 7 février 1971 et son édito a pour titre « Où sont les femmes ?» point d'interrogation. « Où sont les femmes ?» s'exclame avec ce titre, deux collègues masculins, deux jours de suite dans deux journaux suisses romands, un quotidien, un hebdomadaire. Ceci en guise de bilan, des regards posés sur l'année 1995 écoulée. Non, ils ne sont pas frappés de myopie, écrit-elle, et nous n'avons pas été subitement rayés de la surface terrestre helvétique. Simplement, ces deux spécialistes de la question économique ont jeté un coup d'œil objectif sur le haut de la hiérarchie et sans doute acquis à la non-absence systématique de notre personne. Ils ont été fort surpris de ne voir aucune d'entre nous, ou presque. L'un s'est penché sur le style de ces nouveaux managers suisses qui plaisent aux analystes. Mais après examen, ils constatent qu'avec eux, rien de nouveau de notre côté puisque l'absence des femmes dans les rangs des grands patrons suisses est encore et toujours flagrante. En fait, c'est même le désert plus une. Entre guillemets, dans le club des femmes PDG de grandes sociétés suisses, Elisabeth Salina Amorini, à la tête de la Société Générale de Surveillance, risque d'être longtemps encore seul membre actif. Pas étonnant dans ce contexte que le livre blanc de messieurs Purienko n'ait pas trouvé de co-auteur. Quant à l'autre journaliste, il s'est entretenu avec le responsable des ressources humaines d'un grand groupe suisse qui reconnaît que par rapport à la proportion d'employés, celle des cadres féminins est nettement trop faible. Il reconnaît aussi que la promotion des femmes est toujours en vigueur et que 34% des promotions concernent des femmes en 1995, mais que je cite, enfin c'est plutôt Brigitte Montilleri qui cite le journaliste en question, en raison de l'actuelle constellation du personnel, aucune femme n'a été nommée à un poste de cadre supérieur. Drôle d'explication. Alors là, Brigitte Montilleri dit « Je me raccroche à l'astrologie et je me dis que Madame Soleil ou bien Elisabeth Tessier trouveront peut-être dans les constellations les signes avant-coureurs d'une meilleure promotion féminine pour 1996. » Autre constatation de Brigitte Montilleri, ce même groupe refuse les règles des quotas, c'est son droit bien sûr, parce qu'il souhaite développer une politique ciblée de la promotion des femmes. Et puis, à l'intérieur du groupe, le nombre des femmes promues est en augmentation. Elle cite « À moyen ou long terme, notre objectif est d'atteindre la parité. » « Bon, dit-elle, Brigitte Montilleri, on ne va pas décourager les bonnes intentions, mais je me souviens d'un rapport du Bureau international du travail constatant que dans les pays industrialisés, malgré la percée des femmes dans la vie économique, 75% d'entre elles sont employées à des tâches traditionnellement mal payées dans le secteur tertiaire. » Selon ce rapport, au rythme actuel, il faudrait 475 ans pour arriver à la parité entre les hommes et les femmes au sommet de la hiérarchie et des fonctions de direction et d'administration. Mais consolation de taille, au 5e congrès suisse des femmes, nous étions plus de 2300, dit Brigitte Montilleri, à phosphorer sur l'économie, la politique, en bref, sur la vie et l'avenir de notre pays. Comme quoi. C'était l'édito de Brigitte Montilleri. Cinq ans après, on est encore très loin d'utilisation optimale du suffrage féminin. C'est la professeure de sciences politiques à l'université de Zurich et professeure invitée à l'université de Genève, directrice du programme national de recherche Femmes, Droits et Société, Voie vers l'égalité, c'est-à-dire Madame Tian Wen Balmerco, qui le dit. Et qui observe depuis plus de 20 ans l'évolution de la situation de la femme en Suisse. Et bien sûr, à l'occasion du 25e anniversaire du suffrage féminin, elle a accepté de répondre pour le journal suisse à journal Femme Suisse à quelques questions. C'est Marie-Jeanne Krill qui pose quelques questions à Tian Yuen Balmerkan. La Suisse, dit-elle, a été l'un des derniers pays développés à accorder le droit de vote aux femmes. Cela veut-il dire que la Suisse est toujours moins féministe, moins avancée dans ce domaine que la France ou l'Angleterre ? La date de l'introduction du suffrage féminin, répond Madame Balmerkao, n'est plus un indicateur absolu de l'égalité, ce serait trop facile. Ce n'est pas le suffrage en tant qu'acquis qui compte, mais le suffrage en tant qu'enjeu. On ne peut pas instituer ou définir l'égalité une fois pour toutes, il faut sans cesse la questionner, la politiser, la thématiser. Je vous donne un exemple. La France et l'Angleterre ont été parmi les premiers pays européens à accorder le droit de vote aux femmes. Or, ils n'ont qu'une proportion infime de femmes dans leur parlement, à peu près 6% en France et 10% en Grande-Bretagne. Le contraire s'est produit en Suisse. L'introduction tardive du suffrage féminin a déclenché un mouvement de rattrapage. Aujourd'hui, on compte environ 22% de femmes au Conseil national. Autre question de Marie-Jeanne Krill à Tian Wen Balmerkao. En général, les femmes sont toutefois toujours très mal représentées au sein des législatifs et des exécutifs. Alors êtes-vous favorable à l'introduction de quotas féminins pour accélérer les choses ? Réponse de Madame Balmerkao. C'est vrai, nous sommes encore loin de la parité. Si des progrès ont été réalisés, ils sont relativement lents. Mais je ne serai pas aussi sévère que vous. Nous avons malgré tout avancé. Cela dit, je ne suis pas une adversaire des quotas. Mais je plaide en faveur d'une application différenciée de ce principe et d'un débat public plus poussé à ce sujet, d'un véritable dialogue démocratique. Dans le domaine politique, je serais plutôt favorable à un quota dans les organes dont les membres sont élus indirectement ou nommés, comme le Conseil fédéral, par exemple, ou les commissions d'experts. Pour les organes directement élus, comme le Conseil national, les parlements communaux ou cantonaux, je verrais en revanche plutôt un quota sur les listes électorales qu'un quota sur les sièges. Une fois au pouvoir, les femmes ont-elles forcément une position différente des hommes ? Ou sont-elles forcément différentes ? Oui, répond Madame Balmercao, je pense, même si les points communs sont plus nombreux que les divergences. J'ai constaté que les femmes abordaient des thèmes, défendaient des points de vue qui peuvent être différents de ceux des hommes, même si le clivage gauche-droite les divise aussi. Je suis convaincue qu'un front commun féminin au-dessus des partis est possible. Mais il n'est pas automatique, il faut à chaque fois le négocier à nouveau. Les femmes cadres dans l'économie ont, comme les politiciennes, beaucoup de points communs avec leur père masculin, mais il y a une manière féminine d'appréhender la carrière. Pour les femmes, c'est un moyen de se réaliser, pour les hommes, c'est un avancement, une voie qui les mène plus haut dans la hiérarchie. Ils cherchent la reconnaissance et une récompense qui ne doit pas forcément être matérielle. Les femmes, elles, veulent obtenir une satisfaction personnelle. Dernière question posée par Marie-Jeanne Krill à Madame Balmercao. Les femmes des partis bourgeois sont tout particulièrement mal représentées. Pourquoi ? Il y a trois principales raisons à cela. Pour ces partis, la promotion des femmes, l'égalité sont des thèmes souvent trop négligés. Leur électorat se recrute essentiellement dans des segments de la population peu ouverts au changement, un électorat âgé et rural. Enfin, leurs adhérents évoluent en général dans un cadre de vie plus traditionnel, plus rangé. Elles sont mariées, ont des enfants, cela conditionne très fortement le style d'engagement politique et ces trois facteurs se renforcent mutuellement et forment un vrai cercle vicieux. Et Madame Balmercao de terminer, si nous voulons avancer, il faut que les intérêts des femmes dans un sens large soient défendus partout de manière ferme et compétente. Pour cela, il faut davantage de femmes au poste de décision. Le nouveau quotidien d'aujourd'hui ne faisait aucune allusion au 7 février 1971. Quant au journal Construire, il a offert un dossier, donc c'est un hebdomadaire. Dans celui de cette semaine, il y avait un dossier d'une dizaine de pages sur les femmes, qu'il serait trop long de vous citer ce soir. Pour terminer, j'avais envie de vous citer l'édito écrit par Marie-Pierre Dupont dans le journal Féminin de la semaine passée. Il n'avait pas à proprement parler trait au 7 février et au droit de vote et d'éligibilité des femmes, mais il montrait à nous un engagement des femmes important, comme rédactrice en chef aussi, et je pense que ça vaut la peine de vous en faire part. En automne dernier, écrit Marie-Pierre Dupont dans Femina du 4 février 1996, en automne dernier, le sort de Sarah Balabagan, la jeune bonne philippine condamnée à mort pour avoir tué son violeur et employeur d'Abu Dhabi, avait ému et révolté l'opinion publique internationale. On s'en souvient, la peine avait été commuée en réclusion, 10 ans, assortie d'une flagellation sans coup de fouet, à laquelle beaucoup s'efforcent de sursoir, tant elle est meurtrière et barbare à nos yeux. Mais lorsque la barbarie, ce manque de civilisation, accourt dans des pays démocratiques, nous avons la tension et l'indignation moins vives. Parce que la justice ne saurait y être le fait du roi ou de l'émir ? À voir. Aux États-Unis, c'est à la veille de son exécution et grâce au forcing des adversaires de la peine de mort que le gouverneur de l'Illinois a commué la condamnation de Guinevere Garcia, qui a 37 ans, en réclusion à perpétuité. Adolescente violée, adulte paumée, épouse régulièrement battue par son mari, Guinevere avait fini par tuer ce dernier. Merci au gouverneur Jim Edgar d'avoir usé de son droit de grâce. Merci à Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nayan. Mais que l'on nous ne demande pas d'applaudir à un droit qui tue quand on ne s'en sert pas. Pouce levé, pouce abaissé, la vie ou la mort laissée au bon vouloir, à l'humeur, peut-être de quelques Césars. Et il faudrait regarder cette grâce comme une manière d'atténuer l'impitoyable, comme un ultime recours justifiant le maintien de la peine de mort. Les deux relèvent d'une même barbarie, que l'on voit, non sans effroi ni écœurement, enfler et grossir dans les traits démocratiques des États-Unis.
Ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simples. De amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida assim.
Maria Creusa dans Remue-Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Notre émission aujourd'hui arrive à sa fin. Je vous propose d'écouter une autre chanson d'une chanteuse brésilienne, toute différente celle-ci. et c'est Fernanda Abreu.
Dançar, olhar de encontro, dar de ombros e seguir já. Se quiser voltar, se vier brindar. Seguir é o que marca o beat do meu coração. Alçar do ponto culminante o voo leve. Mas é que sem você por perto, mesmo em meio à multidão, me sinto deserto, certo da mais pura solidão. Calor que é bom colar. Do lado de lá, um brinde, bring back, come sing. Bring back com swing. Um brinde, bring back, come sing. Bring back com swing. Arfar, dançar, olhar de encontro, dar de ombros e seguir já. Se quiser voltar, se quiser brindar. Seguir é o que marca o beat do meu coração.
C'était Fernanda Abreu dans Remue-Nageons de Femmes Radio Zone. Dans quelques instants, la pleine lune à travers des flocons de neige très épais vous apparaîtra dans les oreilles avec les informels de Radio Pleine Lune. Mais pour terminer, j'ai envie de vous faire écouter un très très vieux blues chanté par une femme dans le blues. Ça date de 1920. Je vous fais écouter et peut-être une fois on eut l'occasion de participer toute l'histoire des femmes dans le blues.
I can't sleep at night. I can't even.
C'est Mamie Smith qui chantait « Crazy Blues, je n'arrive pas à dormir la nuit parce que l'homme que j'aime ne me traite pas bien ». Et c'est le début d'une très belle histoire des femmes dans le blues, depuis leur début sous les chapiteaux des tournées, dans les revues de vaudeville jusqu'aux scènes des plus grands théâtres, depuis les coins de rue sombres des petites villes du sud, jusqu'aux cabarets malfamés des ghettos des grandes cités. C'est toute l'histoire de la musique afro-américaine et en toile de fond, la vie et l'évolution de toute une communauté, vue par la femme noire, avec la réalité poignante et quotidienne qui lui donne sa position dans la société. C'est toutes sortes de témoignages musicaux de tout genre qui sont enregistrés dans cette vaste histoire de Women in Blues, les femmes dans le blues. De nouveaux CD que je me suis offerte et que j'espère bien vous faire partager prochainement.
Driving me mad, don't even hear. Oh, bit of news from my home, all alone. No wonder I'm feeling bad. It seems that all of the world is as lonely as can be, just as lonely. Sun goes to sleep. I want to cry while the moon is on high. Feel so forlorn at the break of the dawn. Hate to see another day born. Birds in the trees sing their sweet melodies. Sun shining bright, still as dark as a night. I've never had any blues half so bad. I know why I'm feeling so sad, 'cause all the world is a lonely.
À la semaine prochaine dans Remue Ménage et dans quelques instants, les informels de Radio Pleine Lune.
Did I start into roll?